Un podcast, une œuvre, Jimmy Freeman, 1981. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Il est un des plus grands noms de la photographie américaine et de l'histoire de l'art, tout simplement. Sa signature est faite de noir et blanc, de corps parfaits, habillés de cuir et de chaîne ou bien nus, de peau, de bras, de muscles, de membres, de sexe en érection ou pas, et de fleurs, parfois. Robert Mapplethorpe a fait de l'art avec du matériel pornographique et chroniqué le New York gay des années 70 et 80, avant de décéder à son tour du sida en 89. Dans sa représentation du corps nu, sous toutes ses variations, le photographe s'est attardé sur des portraits d'hommes noirs. C'est sur ces œuvres-là que cet épisode d'un podcast Une œuvre se concentre, avec deux invités. D'un côté, Elvan Zabounian, elle est historienne de l'art contemporain et critique d'art, professeure à l'université Rennes 2, spécialiste de l'histoire de l'art africain-américain et des questions féministes. De l'autre, l'artiste Régis Sambakounzi, ancien militant d'ACT UP, qui documente dans son « Projet minorité », par la photographie, la vie des homosexuels et des minorités sexuelles et de genre en Afrique. Il sera donc question de ce que « représenter les corps noirs » signifie, de fétichisation, d'archives visuelles de l'épidémie du VIH-SIDA, mais également de l'obsession de Robert Mapplethorpe pour la perfection et la symétrie des corps, comme c'est le cas dans ce portrait de Jimmy Freeman, que nous décrit le guide conférencier Olivier Font.
Jimmy Freeman est photographié en 1981 dans une pose devenue iconique. En noir et blanc, le tirage argentique collé sur carton de 49,6 cm sur 39,4 offre un cadre serré au corps accroupi qu'il semble enfermer. L'homme pose, jambes écartées, les bras tombant avec les mains croisées, posé sur le sol, cachant habilement les pieds. Il semble reposer sur un socle et sa silhouette se détache nettement sur un fond blanc lumineux qui tranche avec sa peau noire. Son dos rond et ses épaules larges et musclées enveloppent la tête penchée dont on ne distingue rien, puisque coiffée d'un bonnet blanc, un koufi peut-être, le bonnet de prière musulman. Un cercle blanc au milieu d'une figure géométrique et symétrique. Le seul espace lumineux qui s'ouvre dans la masse de ce corps replié est entre l'entrejambe et la perspective des fesses, qu'un sexe lourd et large vient sabrer jusqu'au pied. Le corps se déploie dans une symétrie parfaite à partir d'un axe qui irait du cercle blanc défini par la tête jusqu'au trait large du pénis qui pend. La présence insolente, pornographique, ont dit certains, de sexe dans de nombreuses œuvres de la série Black Mares de 83 ou du Black Book de 1986, ont valu à Mapplethorpe d'être la cible de réactions violentes de la part du public et de certains politiques. Il en va de même pour le goût de l'artiste pour le sadomasochisme et l'homoérotisme. On ne peut pas certes nier une vision sexualisée et raciale du corps, mais il ne faut pas également réduire son œuvre à cela. La symétrie et le goût du contraste sont à l'œuvre dans les séries que Robert Mapplethorpe consacre aux fleurs. Les jambes seraient alors comme des pétales s'ouvrant en corolle, sur une tête étamine et un sexe pédoncule. Mapplethorpe a souvent dit vouloir sculpter en photo et voyait les choses et les corps d'abord comme des formes dans l'espace. Son œuvre résonne alors avec Rodin ou Michel-Ange, avec l'histoire de l'art qu'il cite et revisite en sacralisant ce que certains renient, le sexe, l'homosexualité ou une vision érotisée de l'homme noir.
Des corps d'hommes noirs, Robert Mapplethorpe va en photographier des dizaines et des dizaines, dans des positions très chorégraphiées, comme pour la photographie de Jimmy Freeman, parfois nus, dans des positions mettant en avant clairement leur sexe. Ouvrir le livre Black Males de 1981 ou le plus célèbre Black Book de 1986, c'est tomber sur une relecture du canon du nu masculin, comme l'explique Elvan Zabounian, historienne de l'art et critique d'art.
Pour Mapplethorpe, ce qui était important aussi, c'était que le corps, et en particulier le corps noir, qu'il considérait comme étant particulièrement beau, qui lui rappelait toute une anatomie qui remonte aussi à la Grèce antique, à la sculpture de ces corps parfaitement composés, parfaitement équilibrés, et qui, d'une certaine façon, agissent aussi comme étant les canons principaux d'une histoire de l'art qui remonte donc à l'Antiquité, qui est reprise à différentes époques de l'histoire de l'art. Et donc, Mapplethorpe étant très intéressé et particulièrement fasciné par ces corps, il va déplacer d'une certaine façon cette image idéale d'un corps canonique vers les corps africains-américains qu'il va photographier à partir de la fin des années 70 et dans les années 80.
Et c'est cette idée de sculpture des corps, d'immobilité, qui va donner une des lignes directrices du travail photographique de Mapplethorpe.
Tout corps, aussi sexualisé qu'il puisse l'être, n'était pas du tout représenté comme un sujet, mais vraiment comme un objet, au même titre que toute nature morte, que toute fleur. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui a été l'une des raisons pour laquelle cette sexualité évidente, cet homoérotisme évident que Mapplethorpe recherchait, sur laquelle lui-même fantasmait, a été reçu par un public de galeries, du milieu de l'art américain, états-unien, plutôt de collectionneurs, etc., comme quelque chose d'extrêmement attirant, parce que même les images les plus hautement sexualisées pouvaient être interprétées presque comme des natures mortes, comme si cette question de la sexualité ou de la chair ou du corps ou de la sueur ou tout ça était complètement rendu dans une forme aseptisée. Une nature morte ou d'un magnifique bouquet de fleurs ou un lys, c'était voilà, le public le considérait un anus ou un sexe en érection comme un objet esthétique. Et ça, c'est la grande force évidemment de Mapplethorpe, d'avoir transformé le sexe, en particulier le sexe masculin et la sexualité, puisqu'il a aussi photographié des pratiques sexuelles anales, comme si c'était des formes figées. Donc ça, c'est vraiment la particularité, il me semble, de Mapplethorpe, de rendre compte, en fait, d'un corps comme étant un corps avant tout objet, ce qui reconduit, évidemment, tous les stéréotypes contre lesquels, en particulier les féministes dans les années 70, ont pu émettre des de ferventes objections.
Rendre un corps objet, certes, mais tous les corps ne sont pas déjà traités de la même manière dans les représentations culturelles qui en sont faites. Les corps féminins sont historiquement sexualisés, dénudés et objectifiés, alors que les corps masculins sont définis par l'action, le mouvement, ils sont sujets. Mapplethorpe prend donc un contre-pied et fige tout le monde de la même manière.
On ne peut pas non plus nier le caractère profondément attirant de ces corps nus d'hommes et de femmes représentées par Mapplethorpe, puisque c'est ça qui l'intéresse. C'est cette esthétisation au plus haut point et de sa propre photographie, donc ce noir et blanc qui va sublimer les contrastes, qui va rendre la lumière qui tombe sur ses corps encore plus magnifique. Et donc il y a nécessairement, enfin ce sont des personnes très belles qui sont représentées. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va bien sûr. Alors est-ce qu'on peut reprocher à une photographie d'être belle et de représenter des personnes qui sont belles? Non. A priori c'est l'esthétisme, je veux dire c'est le beau étant la question première dans l'art, disons. Et ça, Mapplethorpe en est absolument conscient. Lui il est dans un rapport complètement classique et néoclassique à la pratique photographique.
En voulant montrer le beau, il va montrer des corps invisibilisés jusque-là, comme l'explique le photographe et artiste Régis Sambakounzi, qui se souvient de sa première rencontre avec l'œuvre de Mapplethorpe.
Alors, la première fois que j'ai vu une photo de Mapplethorpe, comment dire ça, comment je pourrais décrire ça? J'étais pas surpris, mais j'ai trouvé cette photo sublime. J'ai trouvé la photo magnifique. Le contexte 86, je le sais précisément pour plusieurs raisons, parce que c'est le moment où je commence à apprendre ce que c'est que la photographie. Et donc je tombe sur cette photo. C'est la photo de l'homme au costume en polyester qui a son sexe à l'extérieur du pantalon. Et puis il va y avoir d'autres photos, dont la photo de Jimmy Freeman, que je trouve absolument sublime, esthétiquement. Et voilà, c'est la seule chose à laquelle je pense. C'est la vue de ces hommes nus, noirs, et dont on sait qu'ils sont homosexuels. Donc voilà, c'est aussi un contexte où moi je grandis, je me construis, j'ai besoin de voir ça, je recherche des photos de ce type. Jusqu'à là, c'était plutôt à travers le porno, mais de les retrouver dans des magazines d'art, il y a vraiment une nouveauté, et puis c'est intéressant de voir ces corps-là, puisque on n'en voyait pas. Moi j'ai eu la chance d'être dans une famille privilégiée qui a fait que j'ai pu voyager assez régulièrement entre mon pays, le Congo, à la fois le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, et la France. C'est sûr qu'au Congo Brazzaville ou au Congo Kinshasa, je n'aurais pas eu accès à ce type d'image. Et donc là, ici en France, si, c'était possible de pouvoir voir des images comme celle-ci. Mais donc voilà, il y avait cette possibilité-là.
On ne les voyait pas, pas même dans la presse gay.
Ah, c'était clairement des corps blancs. Dans la plupart des magazines qu'il pouvait y avoir, c'était quand même des corps blancs. Hein. C'était pas les corps noirs. Hein. Et ça se comprend historiquement, que ce soit les corps blancs, quand on connaît quand même un peu l'histoire des noirs telle qu'elle s'est construite. Ce sont pas des corps qu'on avait envie de voir dans l'espace public, ce sont pas des corps qui ont eu accès très rapidement à l'espace public.
Si on s'inscrit dans une histoire longue, il est évident que la représentation du corps noir, homme et femme, mais là en l'occurrence plutôt homme, comme objet, s'inscrit dans une histoire de la représentation qui au 19e était extrêmement problématique, puisque c'était un corps qui était instrumentalisé pour montrer son caractère objet, son caractère bien, quand c'était les personnes mises en esclavage qui étaient représentées, nues souvent en plus. Bien dans le sens meuble, bien sûr, c'était considéré comme des meubles ou des animaux ou autre.
Dans la suite de cet épisode, les deux invités vont citer régulièrement un historien de l'art britannique, figure des Black Studies, qui a écrit des textes très importants sur le travail de Mapplethorpe et sa réception. Il s'appelle Cobina Mercer.
Pour lui, la photographie de Mapplethorpe instrumentalisait le corps noir nu, bien sûr parce qu'il fantasmait dessus, mais parce que ce corps noir nu est un objet sexualisé mais réprimé depuis le début de l'arrivée des personnes africaines en tant que mises en esclavage sur le continent américain, Caraïbes et Amérique du Sud comprises. Et en fait, ce qui se joue, c'est que cette sexualisation des corps noirs est aussi celle qui a permis de tout temps de les violenter, de les réprimer, de les tuer, de les castrer. Puisque les lynchages, en fait, que l'on connaît dans le sud des États-Unis, étaient surtout liés à des attaques qui concernaient des personnes noires qui auraient été des violeurs, en fait. Et donc le sexe ou la sexualité, elle est présente de façon très très intrinsèque avec cette histoire africaine-américaine. Et donc pour Cobina Mercer, en fait, Mapplethorpe réitère d'une certaine façon cette forme de discrimination, même si tout en étant dans l'ordre du fantasme, puisque c'est corps tels qu'ils les représentent, sont aussi enfermés dans les images, sont immobiles, et même s'ils sont pour certains en érection, l'érection, elle reste presque passive d'une certaine manière dans la façon dont la photographie est cadrée, de façon très proche.
Derrière une photo de pénis d'homme blanc ou d'homme noir, il n'y a pas le même sens donné par l'histoire coloniale et le passé raciste que nous partageons tous et toutes. C'est vrai dans un contexte états-unien, c'est vrai dans un contexte français. Et au moment où Mapplethorpe photographie, le Martiniquais Frantz Fanon a déjà écrit ses lignes dans Peau noire, masque blanc en 1952.
Quand on s'abandonne au mouvement des images, on n'aperçoit plus le nègre, mais un membre. Le nègre est éclipsé. Il est fait membre. Il est pénis. Le blanc est persuadé que le nègre est une bête. Si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. Il a besoin en face de se différent de lui, de se défendre, c'est-à-dire de caractériser l'autre. L'autre sera le support de ses préoccupations et de ses désirs.
Ce regard fétichisant que Mapplethorpe pose sur ses modèles noirs, Régis Sambakounzi, lui, ne l'a pas vu au premier regard.
Moi, à mon niveau, je n'ai pas cette critique-là. Alors déjà, à mon propre niveau, c'est-à-dire que je ne questionne pas ça. Ça ne me vient pas à l'esprit de questionner ça. Je reste sur la forme qui m'est donnée à voir et que j'aime parce que je la trouve sublime. Et je ne me questionne pas sur ça. Ce sont des réflexions qui vont venir plus tard. Et c'est vrai que cette essentialisation, cette fixation, cette exhaustisation du corps sur le sexe, sur la sexualité, hein, parce que quand on regarde des images de Mapplethorpe, c'est quand même ça, quelque part, ce qu'il nous dit. Homme noir, c'est la sexualité, hein, c'est son sexe. Moi, j'ai ma propre interprétation de ça. Je pense qu'il peut y avoir une fétichisation, mais je pense qu'il peut y avoir, qu'on peut la nuancer, et qu'il peut y avoir une fétichisation qui soit, entre guillemets, positive. C'est-à-dire dans le sens où, si ça sert, par exemple, une cause, et que ça remet en cause, ou en tout cas que ça permet de réfléchir sur l'ordre du monde, moi, ce type de fétichisation, j'irais plutôt du côté de ce genre de fétichisation. Il inclut dans le canon esthétique de l'art occidental des corps qui n'y sont pas, en fait. Rien qu'en ça, c'est hyper subversif, et d'ailleurs, on a vu les réactions que ça a données.
Ouais. Oui, parce que son travail, ses nus, vont faire scandale très rapidement après sa mort.
Il meurt en mars 1989, donc du sida. Dès 89, à partir des photographies de Mapplethorpe, il va y avoir des lois qui vont être mises en place aux États-Unis, et notamment par un sénateur très important à l'époque, ultra-conservateur, qui s'appelle Jesse Helms, et qui, lui, va poser tout de suite un veto sur l'interdiction de toute image obscène, avec des critères qui font que l'État, en tant qu'État fédéral, ne pourra plus aider ou financer les productions artistiques à caractère obscène et sexuel.
Et c'est cette réaction des conservateurs qui va changer toute une partie de la lecture du travail de Mapplethorpe. Un exemple très parlant pour comprendre ce qui se joue, c'est la position de l'artiste Isaac Julian et de l'historien de l'art Cobina Mercer.
Cobina Mercer, avec aussi Isaac Julian, qui est un artiste noir britannique, réalise l'année de la mort de Mapplethorpe, en 1989, un film qui s'appelle « Looking for Langston » et qui est une histoire de la vie de Langston Hughes, qui est un grand poète de la Harlem Renaissance. Et il s'appuie, pour l'esthétique de son film, exactement sur les photographies de Robert Mapplethorpe. Et il recrée, d'une certaine façon, cet imaginaire fantasmé de l'homme noir dans sa nudité, dans sa beauté. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène où sont projetées sur les murs, sous forme de diapositives, les pages de Black Book de Mapplethorpe. Et avec Cobina Mercer, ils font un entretien qui s'appelle True Confessions, où ils expliquent en fait la différence de réception de ces corps noirs. Si c'est un corps noir, eux, en tant qu'hommes gays, regardant les corps noirs, l'image fantasmée, ils considèrent qu'il y a un déséquilibre dans la reproduction du regard blanc qui serait celui de l'autorité par rapport au corps noir, aussi musclé et fort soit-il, qui serait quand même l'objet instrumentalisé. Et pour Cobina Mercer, il y a un changement qui s'effectue dans sa perception, d'une certaine manière, de cette critique très frontale qu'il émet envers Mapplethorpe, à partir du moment où les milieux ultra-conservateurs, réactionnaires, commencent à attaquer Mapplethorpe. Donc là, en fait, il change pas d'avis, mais il se met du côté de Mapplethorpe en tant qu'homme gay et en tant qu'historien de l'art et théoricien de l'art pour pouvoir promouvoir d'une certaine façon une approche genrée et queer, peut-être peut-on dire, de cette réflexion autour des photographies de Mapplethorpe. Donc ça, c'est un moment très important. Il ne peut plus s'opposer à Mapplethorpe comme il le faisait, par rapport à ce que les modèles représentent, puisque il ne peut pas être du côté des réactionnaires qui vont laminer Mapplethorpe pour sa représentation de l'obscénité.
Tout est affaire de contexte et de qui regarde qui.
Quand je vois la violence des guerres culturelles que ces images ont provoquées, Elles disent tellement de choses sur l'ordre du monde dans lequel on est et sur la violence que peuvent représenter ces images, qui sont donc mon corps à moi d'homme noir homosexuel. Je me réjouis qu'il y ait quelqu'un qui puisse provoquer cette colère-là. Et je serai toujours du côté d'une personne qui provoque cette colère-là, y compris si je suis représenté négativement. Et surtout que, voilà, encore ce truc de négativement, c'est très subjectif. Moi, je ne le vois pas négativement.
J'ai voulu demander à Régis si, selon lui, les réactionnaires avaient réagi aussi violemment parce qu'il s'agissait de représenter le désir et la sexualité gay ou la nudité des personnes racisées.
Moi, je pense que c'est les deux. C'est vraiment l'intersection à la fois de la race et de la sexualité. En raison de l'histoire coloniale, en raison des imaginaires coloniaux, en raison du racisme. Et d'ailleurs, la violence, elle se manifeste dans leurs propos, mais elle se manifeste aussi très concrètement dans la vie des personnes qu'on a photographiées, puisque ces personnes-là sont quand même celles qui vont subir de plein fouet toute la violence sociale possible et imaginable, y compris celle du VIH qui arrive. Les gens, les noirs, les homosexuels vont mourir massivement dans l'invisibilité. Et le travail de Mapplethorp, justement, aujourd'hui, c'est pas seulement un travail plastique, c'est pas seulement de la photographie d'art, c'est aussi un travail documentaire parce que ça raconte aussi ça. Il raconte un avant-sida et il raconte un pendant. Et donc, c'est très, 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 très important.
Et la photographie de Jimmy Freeman est prise à cette époque-là, au début de l'épidémie.
En cherchant qui était Jimmy Freeman, l'homme qui est représenté sur le portrait, je n'ai rien trouvé. En fait, ce que l'on sait, c'est que la plupart des modèles africains-américains qui ont servi donc, comme objet de représentation pour Mapplethorp sont morts, la plupart du sida, ou alors de pauvreté. Et Mapplethorp, dans un entretien qu'il donnait à Vanity Fair au moment de sa vie, donc dans les années 80, au moment de l'apparition, je pense, de Black Book, expliquait qu'il était conscient qu'il y avait une très grande précarité, en fait, chez ces modèles qu'il représentait. Apparaît aussi de manière intrinsèque avec les photographies de Mapplethorp la question du deuil et de la mort, lui-même étant complètement fasciné par la mort, les vanités, etc. Donc, tous ces corps, en fait, dans une splendeur physique, musclée, sont aussi des corps qui viennent contrer les images qui commencent à pleuvoir de personnes qui sont porteuses donc, de l'HIV et qui sont en train de dépérir, en fait. Lui-même étant le premier, on connaît les images de lui où il est très, très, très amaigri. Donc, il y a aussi, en fait, une valeur mémorielle, je dirais, dans ces photographies de Mapplethorp, notamment de ces hommes noirs nus qui sont dans leur beauté, aussi des éléments qui vont rester dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la représentation, plutôt que leur pauvreté ou le fait qu'ils soient malades ou le fait que le corps va dépérir, en fait. Et je pense que Mapplethorp, il produit aussi ces images-là pour préserver d'une certaine façon, indépendamment de ses propres fantasmes, préserver en fait cette idée de beauté à jamais.
Au-delà de Mapplethorp, qui s'inscrit dans un registre plus artistique que documentaire, la photographie va prendre une place très importante dans la lutte contre l'épidémie de VIH-SIDA.
Une place absolument centrale. Pourquoi ? Parce que historiquement, les luttes ont toujours eu besoin de la photographie à partir du moment où elle a existé. Ça a vraiment été un moyen de pouvoir... C'était une preuve. Ça a été vraiment un moyen de pouvoir faire entendre sa voix. C'est un outil historique des luttes. Et donc, du coup, dans celle du sida dans les années 80, dans les années 90, ça va avoir le même usage. Après, il y a eu diverses représentations, des représentations qu'on a acceptées et des représentations qu'on n'a pas acceptées. Il y a eu des représentations misérabilistes, honteuses, de personnes malades, et donc qui ont été rejetées par les militants, qui ne voulaient pas ces images-là, et qui voulaient d'autres images plus résilientes, plus de lutte, de force. Moi, je suis un ancien militant d'ACT UP, je connais un peu l'histoire d'ACT UP, notamment aux États-Unis aussi. Il y a les manifestations au MoMA contre des images qui sont du photographe Nicholas Nixon, de malades et qui sont inacceptables pour les militants, par exemple. Et la photographie a toujours été très présente dans cette histoire.
et on l'oublie facilement, mais l'épidémie va frapper historiquement des personnes noires.
L'histoire du sida, on sait qu'elle remonte quand même au début du XXe siècle maintenant. C'est tout alors, c'est pas tout le sens de mon travail, mais dans le travail que je produis, j'ai besoin de ramener ce récit-là aux origines de l'épidémie. Et les origines de l'épidémie, c'est Brazzaville, Kinshasa, dans les années 20. Donc déjà, c'est des corps noirs qui vont subir la violence de cette épidémie, qui évidemment à l'époque est totalement invisibilisée. Mais ça va être la même chose quand ça arrive aux États-Unis, à travers Haïti, donc des corps noirs, à travers les homosexuels, noirs ou blancs. Et quand on réfléchit bien, évidemment que ça n'arrive pas que par ce canal-là, ça arrive par tous les canaux, mais il se trouve que les corps, donc les groupes subalternes qui historiquement ont toujours été discriminés, vont être les premiers à subir ce genre de violence. Et donc les noirs, oui, vont être impactés violemment dès le début.
Et c'est dans ce contexte que Régis Sambakounzi inscrit son travail, son projet Minorité, qui interroge la définition de la norme et les groupes sociaux subalternes relégués aux marges de l'histoire postcoloniale.
J'ai eu besoin, moi, de revenir justement aux fondamentaux, d'utiliser l'art, d'utiliser la photographie comme un moyen de pouvoir dire et raconter ce que je trouve absolument scandaleux du retour au silence sur le sida. Parce que dans les années 80, il y a eu évidemment cette indifférence, ce mépris, mais il y a quand même eu donc des mobilisations, celle d'ACT UP notamment. Moi, je me suis engagé, je suis allé à ACT UP. Et ben, depuis le milieu des années 2000, début des années 2010, me semble-t-il, on est reparti dans un silence. Alors, il y a eu évidemment beaucoup d'avancées et la vie des personnes séropositives a énormément changé dans les pays occidentaux, dans certaines classes sociales, mais pas pour tout le monde, y compris dans les pays occidentaux. Mais alors, sur le continent africain, les choses ont bougé, mais pas assez. Ce sont quand même des millions et des millions de personnes qui continuent à mourir. Ça y est, on s'est habitué à ces chiffres-là, et j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de fabrication politique de l'effacement et une amnésie collective. J'avais envie de à mon petit niveau, de faire quelque chose, et le projet Minorité est là pour donner une parole, essayer de transmettre à la fois de la mémoire, du savoir, interroger, dénoncer ce qui me semble inacceptable.
Alors que retenir du cas des nus d'hommes noirs de Mapplethorpe ? Déjà que c'est un cas idéal de l'histoire de l'art pour expliquer l'importance du contexte historique et culturel dans le décryptage des images.
Tous les dangers que l'on rencontre dans des dénonciations d'œuvres d'art qui pourraient être à caractère pornographique ou autre, c'est souvent quand ce n'est pas contextualisé. Donc en fait, ce qui est très très important, et ça il faut le dire et le souligner, c'est qu'une image n'existe pas hors du contexte au sein duquel elle a été produite et au sein duquel elle peut exprimer en fait différentes formes d'interprétation. Donc c'est ça le danger en fait de tout ce qui touche à la censure des œuvres aujourd'hui, c'est la façon dont on va stigmatiser certaines œuvres et puis surtout invisibiliser d'autres, parce que Mapplethorpe est une immense star de l'art états-unien, mais exactement au même moment, il y avait un artiste qui, lui, était d'origine nigériane, qui était un photographe, qui était gay, qui était un contemporain de Mapplethorpe, qui s'appelle Romi Fanny Kayode, et qui, lui, est mort du sida la même année que Mapplethorpe, et qui a fait des représentations de son propre corps, des autoportraits, donc en tant qu'homme nu. Et donc il y avait ce pendant, en fait, qui était très très important sur la façon dont ce que Mapplethorpe proposait et produisait pouvait être aussi reçu dans la communauté gay, artiste, photographe noir, pour répondre d'une certaine façon avec un corps noir, un regard noir qui regarde un corps noir, ou un œil noir qui se regarde lui-même.
J'ai d'abord découvert les photos de Mapplethorpe avant de découvrir les photos de Rotimi Fanny Kayode, qui a fait un travail qui est proche de ce que Mapplethorpe. C'est quand même le même univers, du nu, masculin. Voilà, j'ai mis du temps à voir le travail de Alvin Baltrop, qui a photographié des Noirs homosexuels. Donc voilà, cette hiérarchie, elle est historique. Et la visibilité de Mapplethorpe dans les années 80, parce qu'il est quand même une star, il est une superstar. On en parle dans les médias, c'est une superstar. Bon, c'est dû aussi à son statut d'homme blanc. Et donc, voilà, le travail qu'il produit va avoir un impact très important. Mais il y a d'autres artistes qui, comme lui, font un travail autour du corps et qu'on va moins voir, tout simplement.
Et en fait, ce que font les artistes afrodescendants gays à l'époque, Isaac Julien le premier, c'est de produire un corps ou des corps qui sont dans une attirance mutuelle. Dans le film Langston, Looking for Langston, il y a à la fois des hommes blancs et des hommes noirs ensemble, à la fois des hommes noirs ensemble, mais tout le corps est en mouvement. Donc le film va apporter une autre agentivité d'une certaine façon à ce rapport à la sexualité.
Et que retenir du cas des nus d'hommes noirs de Mapplethorpe ? Eh bien qu'il est important d'aller chercher les noms et les œuvres que l'histoire a mis de côté de personnes concernées pour ne pas faire de Mapplethorpe l'unique témoin de cette époque sociale et artistique. Ce qu'on peut lui accorder, en revanche...
Je pense que c'est Kobena Mercer qui disait que justement la force de son travail, c'est ça. C'est moins son intention que ce que ça dit collectivement du regard blanc ou de ce que ça dit du visiteur et que chacun justement arrive comme ça à avoir une interprétation. Comme on n'est pas des robots, on n'a pas tous la même interprétation.
Et au fait, Mapplethorpe, est-ce qu'il est queer ?
Pour moi, il était un artiste queer et pour moi, il continue à être un artiste queer. Pourquoi ? Parce que son travail continue à être justement subversif, continue à ne pas être dans la norme hétéropatriarcale, hétéronormée en fait. Ça continue à être quelque chose qui dérange, tordu, ça continue à être tordu dans le sens du mot queer lui-même, hein, tel qu'il a été défini au départ. Ça continue à être quelque chose qui est hors norme en fait.
Merci à Régis Sambakounzi et Elvan Zabounian pour leur participation à cet épisode. Un podcast, une œuvre est une émission du Centre Pompidou, écrite et réalisée par Camille Regache, produite par Clara Gouraud, mixée par Yvan Gariel et habillée par la musique de Nawel Benkrayem et Nassim Kouti.
Et le texte de Franz Fanon est lu par Anthony Vincent.